Je vous invite à trouver trois Jean. Alors pour trouver trois Jean, commencez à l'Apocalypse. Et quelques pages avant l'Apocalypse, à savoir deux pages, il y a trois Jean. Il ne s'agit pas de Jean 3, mais de trois Jean. Si vous trouvez Jean 3, vous serez déçus. Enfin, vous ne serez pas déçus, mais vous n'allez pas suivre la lecture de trois Jean. Et juste pour vous montrer que Dieu s'occupe des choses très terre à terre, ce matin, nous allions vivre un drame dans cette église. Parce que la télécommande n'avait plus de piles. Et je me suis dit, même si je cours vite, si je vais aller chez Moïse au bout de la rue acheter des piles et revenir, je ne serai pas en état pour présider le culte. Et pendant que Max et moi ont discuté du besoin de piles, une sœur est arrivée pour dire, est-ce que vous aurez besoin de deux piles? Formidable. Le Seigneur connaît nos besoins. Et les piles sont dans la télécommande. Bien, trois Jean. Je vais lire cette courte épître. De la part de l'ancien au bien-aimé Gaius que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. J'ai en effet éprouvé une très grande joie lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de ta sincérité, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis avec fidélité dans ce que tu fais pour les frères, notamment pour des frères étrangers. Ils ont du reste rendu témoignage à ton amour devant l'Église. Tu feras bien de les aider d'une manière digne de Dieu dans leur voyage, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des non-croyants. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin de travailler avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous accueille pas. C'est pourquoi, si je viens, je rappellerai les actes qu'il commet en bavardant contre nous de façon malveillante. Non content de cela, il n'accueille pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Quant à Démétrius, tous lui rendent un bon témoignage, et la vérité elle-même témoigne pour lui. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir très bientôt, et nous parlerons de vive voix. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salut les amis, chacun en particulier. On vient de lire un livre de la Bible. 45 secondes, une minute peut-être. D'autres livres, il faut des heures parfois pour les lire en entier. Il s'agit d'un des cinq livres de la Bible qui n'a qu'un chapitre. Dans l'Ancien Testament, il y a un livre qui n'a qu'un chapitre. Dans le Nouveau Testament, il y a quatre livres qui n'ont qu'un chapitre. Dans l'Ancien Testament, le livre, c'est Abdias, qui est coincé entre Amos et Jonas. Et dans le Nouveau Testament, il y a Philémon, 2 Jean, 3 Jean et Jude. L'année dernière, on a consacré 3 dimanches à l'épître de Jude. Par conséquent, 3 Jean est un des livres les plus courts de la Bible. Mais il ne s'agit pas du livre le plus court. Le plus court, c'est 2 Jean. 2 Jean n'a que 13 versets. 3 Jean, 15 versets. Abdias, 21 versets. Et 4e Mexico, avec 25 versets, il y a Philémon et Jude. L'épître de 3 Jean a été écrite par, vous avez deviné, par Jean. Jean qui était disciple de Jésus-Christ. Jean qui avait un frère qui s'appelait Jacques. Les deux étaient pêcheurs, ils avaient une petite entreprise. Jean a aussi écrit 2 Jean, 1 Jean, l'évangile de Jean et l'Apocalypse. Le frère de Jean, Jacques, a été martyr. Et on parle de sa mise à mort dans Acte 12. Et Pierre devait être mis à mort le lendemain ou quelques jours plus tard. Et Dieu a délivré miraculeusement Pierre de la prison. Par contre, Jacques n'a pas été délivré miraculeusement. Et Jacques a subi la mort. Jean et Jacques avaient un surnom de la part de Jésus. Boanergès, ce qui se traduit « fils du tonnerre ». Si Jésus vous devait vous donner un surnom, qu'est-ce que ce serait? S'il devait me donner un surnom, je n'ose pas penser ce que ça pourrait être. Voilà, nous allons regarder ce texte et j'ai trouvé des mots clés pour résumer l'enseignement dans ce texte. D'abord, il y a les premiers mots, verset 1, de Jean à Gaius, un chrétien bien-aimé, un frère bien-aimé. Et Jean l'appelle bien-aimé plusieurs fois dans cette épître. Et il est possible que Gaius soit un fils spirituel de Jean. Parce que Jean dit au verset 4, « J'aime bien quand mes fils, mes enfants marchent dans la vérité. » Soit c'était un fils spirituel, soit c'est juste que Jean, qui avait peut-être 90 ans quand il a écrit, tout le monde était un peu comme un fils pour lui. Parce que tout le monde était beaucoup de gens étaient plus jeunes que lui. Le premier mot-clé que je trouve ici, c'est le mot « prospérité ». Il s'agit d'un souhait de la part de Jean. Il souhaite que physiquement et spirituellement, que Gaius aille bien. Ça pourrait être un souhait de nouvelle année. D'ailleurs, parfois, on reçoit une carte de nouvelle année et un chrétien cite ce verset pour dire « Je souhaite, David, que ton cœur et que ton corps aillent bien. » C'est un bon souhait. C'est une belle prière. Pas que pour une nouvelle année, pas que pour chaque année, mais pour chaque journée. Que sur le plan physique et sur le plan spirituel, que nous allions bien. Bien entendu, on peut avoir une bonne santé spirituelle, même si la santé physique ne suit pas. Je pense à Johnny, en fauteuil roulant, depuis plus d'un demi-siècle. Le corps va mal, mais son cœur, son âme vont bien, malgré des grandes souffrances depuis son accident de plongée il y a plus de 50 ans. Et il y a d'autres exemples. Parfois, quand on va rendre visite à un chrétien malade, on y va pour apporter quelque chose, mais quand on sort, on se rend compte qu'on a reçu quelque chose. Parce que même si physiquement ça ne va pas, souvent spirituellement, ça va bien. Et puis, quand on va pour les encourager, on sort encouragé. Parce qu'ils ont tout ce qu'il faut dans leur âme et dans leur cœur. On pourrait dire qu'il y a 4 catégories de chrétiens. Je vous demande de cacher les bonnes cases. Ceux qui physiquement vont bien, mais spirituellement vont mal. Ceux qui physiquement vont mal, mais spirituellement vont bien. Ceux qui physiquement vont mal et spirituellement vont mal. Et ceux qui physiquement vont bien et spirituellement vont bien. Vous êtes dans quelle case? Ne vous lavez pas la main, hein? Il y avait 4 cases, 4 catégories. Mais sachez que, grâce au Seigneur, même si physiquement on a des soucis, spirituellement on peut aller bien. Grâce au Seigneur. Prospérité. Bien sûr, Jean et le Nouveau Testament ne prêchent pas l'évangile de la prospérité. Et si vous vous intéressez à ce sujet-là, un livre est sorti l'année dernière, je crois, de Piper. 12 messages à ceux qui prêchent l'évangile de la prospérité. Piper condamne sans pitié, on va dire, ceux qui prêchent que tout chrétien doit être toujours riche, toujours en bonne santé. Et que si vous n'êtes pas riche et si vous n'êtes pas en bonne santé, vous êtes un grand pécheur devant Dieu. C'est le mensonge des prédicateurs de la prospérité. Bref, prospérité. Deuxième mot clé, c'est le mot sincérité. Gaius est un chrétien sincère. C'est formidable. Un gars sincère. Jean le sait. Et Jean dit, mais tout le monde le sait. Tout le monde en parle. Tu es quelqu'un de sincère. C'est intéressant. Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens sincères autour de vous? Au boulot? Dans le quartier? Dans la famille? Est-ce que j'ose dire dans l'église? Dans vos églises? La sincérité. De temps en temps, il y a un nouveau nom qui fait son apparition sur l'échiquier politique. Et on dit, ah, c'est un jeune, c'est une jeune, peut-être ce serait quelqu'un de bien. Et puis, tôt ou tard, on se rend compte que lui aussi a des pieds d'argile, lui aussi a des squelettes dans le placard, lui aussi a des scandales qui remontent en surface tôt ou tard. La sincérité, c'est une qualité qui doit marquer chaque chrétien. La sincérité. On ne devrait pas seulement prier, Seigneur, permets que dans notre Église, nous ayons des chrétiens sincères. On devrait prier, Seigneur, permets que dans notre Église, nous soyons des chrétiens sincères. La sincérité, un chrétien sincère, c'est super d'avoir des chrétiens sincères. Et je remercie Dieu parce qu'il y en a plein dans l'Église de Sandra. J'espère qu'il y en a plein dans votre Église aussi. Quatrième mot, vérité. Il est question de la vérité, je dirais avec un V majuscule. Le fondement et la base de tout amour fraternel, c'est la vérité. Non pas la vérité selon un tel ou une telle. Parfois, on voit dans les titres des journaux, quelqu'un explique sa vérité pour se justifier, pour se défendre. Il ne s'agit pas de ses vérités avec un petit V, mais il s'agit de la vérité selon Dieu. Et bien sûr, Dieu est appelé le Dieu de la vérité. Jésus lui-même, le Fils, est appelé le Fils. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et le Saint-Esprit est appelé l'Esprit des vérités qui vous conduira dans la vérité. Et la parole de Dieu est appelée la vérité. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Donc si nous voulons refléter la vérité et grandir dans la vérité et être marqués par la vérité, eh bien nous devons déjà aimer la Bible, la vérité. Nous devons lire la vérité, méditer la vérité, écouter la vérité et digérer la vérité. Dans mes notes, au lieu de marquer digérer, j'ai marqué diriger. Mais si on digère la vérité, on sera dirigé par la vérité. Et si nous aimons la vérité, si nous écoutons la vérité, si nous lisons la vérité, si on est dirigé par la vérité, eh bien, comme dit Jean, on va marcher dans la vérité, conduit par la parole de Dieu. Quatrième mot, le mot fidélité. Gaius est un chrétien fidèle. Dans tout ce qu'il fait pour le Seigneur, il est fidèle. Fidèle dans les grandes choses, fidèle dans les petites choses. Il n'est pas négligent par rapport à ce qu'il fait dans son Église. Un verset dans Jérémie dit, « Malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. » Et un verset dans les Proverbes, Proverbes 18, 19, « Celui qui néglige son travail est frère de celui qui détruit. » C'était un homme fidèle dans son Église. Vous savez, je visite beaucoup d'églises chaque mois et je me rends compte que dans certaines églises, il y a des gens qui disent, David, j'ai décidé de m'engager dans mon Église. Je dis, ah, très bien. Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai dit aux anciens, ou j'ai dit au pasteur que je veux présider le culte et je veux prêcher. J'ai dit, ah bon? Et puis en discutant, pour eux, leur idée d'être engagé, c'est de présider ou de prêcher. Mais j'essaie d'expliquer avec beaucoup de tact et de douceur, en tapant sur la tête avec ma Bible, que c'est pas, il n'y a pas que ça comme engagement dans une église. Il y a beaucoup de choses cachées, discrètes. On ne voit pas. Et c'est souvent ceux qui sont fidèles dans les petites choses qui n'auront pas une petite récompense auprès du Seigneur. Et parfois qu'on voit tout le temps, et je m'inclus dedans, c'est pas ça qui compte forcément. On doit être fidèle dans les petites choses. Fidèle envers Dieu. Et quand on est fidèle envers Dieu, on se rend compte que Dieu est tellement fidèle envers nous. Même pour deux piles. Bête et méchante d'une télécommande. J'ai lu le témoignage d'un homme de la République démocratique du Congo, la RDC, il y a quelques jours. Cet homme s'appelle Dr. Kato. Je précise qu'il ne s'agit pas d'un Kato ou d'un catholique, c'est K-A-T-H-O. Et sa ville, il y a quelques années, a été attaquée par des rebelles. Et il y a eu 1200 morts. Et 34 membres de sa famille ont été massacrés. Il n'était pas sur place à l'époque, il était professeur en déplacement. Et pendant des années, il n'a pas osé retourner dans sa ville d'origine. Parce qu'il savait que les rebelles étaient là et que les enfants soldats terrorisaient les habitants de la ville. Donc un jour, il voulait retourner à la ville pour rencontrer des chrétiens, étant chrétien lui-même. Et à l'entrée de la ville, ou juste en brousse juste avant d'arriver à la ville, sa voiture était arrêtée par deux jeunes, 12 ans, 14 ans, avec Kalachnikov. Et ils arrêtent sa voiture, Dr. Kato arrête la voiture, ils lui disent, des cigarettes. Il dit, j'ai pas de cigarettes. Des cigarettes. J'ai pas de cigarettes. Et il savait que c'était la tactique de ces jeunes, des cigarettes, sinon on te tue. Donc, on lui dit, troisième fois, des cigarettes, sinon vous sortez et on vous tue. Il dit, j'ai pas de cigarettes. Donc il sort de la voiture, il ferme la portière. Il dit, j'ai regardé les deux jeunes dans les yeux. Et j'ai dit, vous allez me tuer. Mais je vais aller tout de suite auprès de mon Père au ciel. Et le jour où vous allez mourir, vous irez où? Alors les deux jeunes reculent pour le tuer. Et Dr. Kato entend une voix. Non pas une voix de là-haut, hein, une voix derrière un buisson. Et une voix d'adulte qui dit, laissez le docteur partir. Donc les jeunes baissent les armes, lui disent de monter dans la voiture et il part. Et Dr. Kato s'est rendu compte, mais cette voix-là, je connais. Et c'était la voix d'un homme qui autrefois était élève dans sa classe biblique, qui avait choisi de ne pas se convertir, mais qui a choisi ce jour-là de laisser la vie à cet homme-là. Et je peux vous dire que dans la voiture, au volant de la voiture, Dr. Kato a chanté les louanges de l'Éternel. Il a béni l'Éternel parce que l'Éternel l'avait béni. Et il est encore vivant aujourd'hui et il sert le Seigneur dans son pays. Un homme fidèle qui a goûté à la fidélité de l'Éternel. Autre mot, générosité. Gaius était un homme généreux envers des missionnaires, envers des gens de passage, envers des étrangers. J'étais intéressé de trouver les définitions du mot étranger dans le dictionnaire. La première définition, quelqu'un d'un autre pays et d'une autre nationalité. Ah, j'en sais quelque chose par rapport à ça. Même si l'année prochaine, non, on est déjà 2018. En principe, avant la fin 2018, je serai français. Je vous annoncerai ça pour que vous puissiez m'applaudir et me demander de chanter la Marseillaise dans quelques mois. Mais ça, c'est une définition d'étranger. La deuxième, c'est quelqu'un qui ne fait pas partie de ton groupe ou de ton milieu. C'est une raison pour laquelle je tenais à ce qu'on se salue au début du culte, parce que une bonne partie des personnes ici ne se connaissent pas. On n'est pas du même groupe. Oui et non, hein. On n'est pas du même milieu, mais oui, on est du même milieu, la famille de Dieu. ou des gens qui s'intéressent à Dieu. La générosité envers des gens qu'on ne connaît pas. Gaius était généreux, il avait un bon témoignage, il avait une bonne réputation. Et encore, tout le monde savait que c'était un gars généreux, même envers des gens pas de son milieu, ou de son pays, ou de son groupe. Autrement dit, sa réputation collait à la réalité. On dit, c'est un gars généreux, et la vérité, c'est qu'il était un gars généreux. Et Jean le savait. Et c'est important que ce qu'on dit à notre sujet, que ça corresponde à la réalité. Je cite le texte en Apocalypse 3, verset 1, je crois. C'est Jésus écrit à l'église de Sardes. Et Jésus dit, « On dit que vous êtes une église vivante, mais en réalité, vous êtes morte. » Les « on dit » disent une chose, mais Jésus savait le contraire. Il faut que la réputation corresponde à la réalité. Jean était généreux. Généreux de ses biens, généreux de son temps. On pense toujours, si on est généreux, il faut donner. Mais donner son temps, on peut être généreux avec son temps. Quel est le contraire de généreux? Bon, il y a le mot radin, avare, je ne sais pas. Mais du cas, est-ce que nous sommes des chrétiens marqués par la générosité? Ensuite, hospitalité. Il était hospitalier. Jean ne travaillait pas en milieu hospitalier, mais c'était un chrétien hospitalier. Vous avez compris? Et il aimait bien recevoir des gens chez lui, recevoir des chrétiens de passage. Et encore, c'est un thème que nous avons abordé dans cette église il y a un ou deux ans par rapport à l'hospitalité. Et en discutant de cela, bien sûr, tout chrétien ne peut pas exercer l'hospitalité. Il y a des raisons de logement parfois, des raisons de famille, des raisons de finances ou de santé. Mais une église doit être un endroit où l'hospitalité est pratiquée. Une église hospitalière encourage des gens à venir. Il y a de nombreux versets dans le Nouveau Testament qui exhorte à l'hospitalité. Hébreux 13. Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité. 1 Pierre 4. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Romains 12. Pourvoyez aux saints, aux besoins des saints, pardon. Exercez l'hospitalité. Et 1 Corinthiens 16. Il y a un autre verset qui parle de l'hospitalité. Un autre mot clé dans cet épître, des personnalités. Que serait une église sans des personnalités? Et Gaius est une personnalité, mais Jean parle de deux autres. Il parle d'un certain Diotrephe et d'un certain Démétrius. Et il dit, Diotrephe, c'est un exemple à éviter. Tandis que Démétrius est un exemple à imiter. Alors pourquoi est-ce qu'il fallait éviter de suivre l'exemple de Diotrephe? Eh bien, pour quatre raisons. Il aime dominer, il repousse, il bavarde et il empêche des gens de faire des choses. Tout ça est dans ces versets 9 et 10. Il aime être le premier. Il aime toujours être devant. Il aime toujours qu'on parle de lui. Il aime toujours être vu, admiré et entendu. Il y a des chrétiens partout comme ça. Il y a des non-chrétiens comme ça. Et si on aime être admiré, remercié, vu tout le temps, ça montre qu'on a des problèmes profonds qu'on doit régler. Mais Diotrephe était comme ça. Ensuite, il aimait repousser les gens. Il n'était pas du tout accueillant. Jean le dit à deux reprises dans le verset 9 et au verset 10. Il nous repousse. Et pire, il met des bâtons dans les rues de ceux qui veulent accueillir et servir le Seigneur. Troisièmement, c'était un bavard. Alors, il y a peut-être des bons bavards et des mauvais bavards. Une bonne façon de bavarder, une mauvaise façon de bavarder. Le mot employé dans les actes par rapport à l'évangélisation, c'était le mot « bavarder ». Juste tchatcher de l'évangile, les uns avec les autres. Mais lui, il bavarde de façon malveillante. Il aurait fallu que dire au trèfle, lise Jean, chapitre 3, où il y a 6 images du danger de ce petit muscle, la langue. Vous savez, la langue, c'est le seul muscle qui n'est pas tenu par les deux bouts. Il y a un bout qui est tenu quelque part, je ne sais pas où, et puis l'autre bout est détaché. Et quand une langue est détachée, bon, il faut bien la maîtriser. Et lui, c'était un bavard, qui bavardait de façon malveillante. Et puis l'autre mot, c'est le mot empêcher. Il empêchait les chrétiens de faire du bien. Et pire, il les chassait de l'Église. Malheureusement, des gens comme ça se trouvent dans certaines églises évangéliques. Je ne vais pas vous donner des noms. Un jour, un ancien m'a appelé. Et dans son église, un ancien, pas d'ici, hein. D'ailleurs, et dans son église, il y avait un diotrèfle qui voulait être le premier, qui s'opposait à tout ce qui se faisait, parce qu'il voulait que ses idées soient les idées de l'église. Et il était vraiment casse-pied. Et ce frère m'appelle pour dire, David, qu'est-ce que je peux faire de cet homme-là? Et je le connaissais, l'homme. Il a dit, David, est-ce que je devrais prier que Dieu l'enlève? Que Dieu l'appelle auprès de lui. Je ne vais pas vous dire ma réponse. Mais c'est compliqué parfois, avec un frère qui veut toujours être le premier et qui sème la zizanie dans une église. C'était le cas de Diotrèphe. Par contre, il y avait une deuxième personnalité, Démétrius, un exemple à imiter. Il est question, verset 11, de ne pas imiter le mal, Diotrèphe, mais d'imiter le bien, Démétrius. Et Démétrius encore était quelqu'un de bien. Tout le monde savait qu'il était bien. Tout le monde savait qu'il faisait du bien. Et tout le monde en parlait. Jean, l'Église et tout le monde. Et c'est pour ça qu'il est un exemple à imiter. C'est-à-dire, puisqu'il faisait du bien, eh bien, on doit faire du bien. Et ce que j'aime ici, c'est que Jean n'attend pas l'enterrement de Démétrius pour l'honorer dans l'Église. Vous savez, quand on meurt, souvent à l'enterrement, on dit plein de choses, j'espère vraies, sur la personne. Et c'est bien, c'est formidable. Mais c'est encourageant pour Démétrius d'entendre ça de son vivant. Parce que quand il est dans le cercueil, il n'entend pas grand-chose. Enfin, il n'entend rien dans le cercueil. Donc, si vous voulez encourager quelqu'un, eh bien, n'attendez pas le jour de son enterrement, mais dites-lui avant pour l'encourager. Parce que tout le monde a besoin d'être encouragé. Et c'est pourquoi je pense, j'en dis, mais des gens comme ça, il faut les imiter. Dans 1 Corinthiens 11, Paul dit, « Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même imitateur du Christ. » Paul dit aussi, « Vous êtes devenus nos imitateurs. » Il est même écrit dans Hébreux 13 qu'il faut que les chrétiens imitent la foi et les œuvres de leurs anciens, des responsables dans leurs églises. Démétrius, un exemple à imiter. Deuxième personnalité. Et on va terminer avec les derniers mots. Après les premiers mots, il y a les derniers mots, Jean-Pierre. Enfin, entre guillemets. C'est bien de t'écrire, dit Jean. Mais j'aimerais bien te voir. C'est bien de prendre la plume et l'encre. Ou le clavier. Ou le téléphone. Mais Jean dit, mais j'aimerais bien te voir. Pour dire ça autrement, c'est bien d'envoyer un email, c'est bien de liker une photo sur Facebook, c'est bien de mettre un commentaire sur le mur ou sur une page web, mais n'est-ce pas mieux de le dire, quand c'est possible, physiquement, et de dire quelque chose pour encourager quelqu'un. N'est-ce pas mieux de passer du temps avec la personne, d'être généreux de notre temps pour parler de vive voix, même quelques minutes, pour discuter ensemble, rire ensemble, pleurer ensemble, prier ensemble. C'est bien d'écrire à un chrétien qui est malade, mais n'est-ce pas mieux de lui rendre visite, si c'est convenable, si c'est possible? C'est bien d'écrire ou d'appeler un chrétien qui est découragé, mais n'est-ce pas mieux de se déplacer, si c'est convenable, si c'est possible? C'est bien d'appeler ou d'écrire à un chrétien qui est endeuillé, mais n'est-ce pas mieux de se déplacer pour rendre visite, si c'est convenable, si c'est possible? Ce n'est pas toujours convenable, ce n'est pas toujours possible. Mais si c'est possible, un petit déplacement, ça fait beaucoup de bien. Un email, aujourd'hui, il y a de moins en moins de cartes de vœux, ce sont des emails de vœux. Et certains chrétiens reviennent aux cartes de vœux, parce que c'est un peu plus personnel qu'un email que l'on voit à 150 personnes, son cœur parfois. Jean, il est content d'écrire, mais il préfère voir et être avec Gaius et les chrétiens. Et dans ce sens-là, il prie à la fin que la paix soit avec toi. Dans quatre reprises, l'apôtre Paul s'adresse au Dieu de la paix dans ses prières. Et ce terme, le Dieu de la paix, se trouve une cinquième fois dans Hébreux 13, le Dieu de la paix. Et ici, Jean prie que la paix de Dieu soit avec Gaius. Dans cette église, qui avait des points positifs et des points négatifs, eh bien, nous, on a besoin de sa paix. Une paix qui ne s'achète pas en pharmacie, mais une paix qui vient du cœur de Dieu à notre cœur. Je termine avec une autre prière de Paul, qui est aussi un vœu de nouvelle année. On est toujours à l'époque du vœu, n'est-ce pas? Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. 2 Thessaloniciens 3, 16. Que le Seigneur de la paix nous donne sa paix en tout temps et de toute manière. Quel beau vœu de nouvelle année et quelle belle prière. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions car tu es le Dieu de l'espérance, mais tu es aussi le Dieu de la paix. Merci Seigneur parce que tu nous as comblés de ta paix tant de fois dans notre vie chrétienne. Mais tu vois Seigneur que chaque jour nous avons besoin de ta paix. Nous avons besoin d'être rassurés de ta présence. Merci car tu vois le cœur de chaque personne ici présente ce matin. Tu vois nos circonstances, tu vois notre église locale. Tu vois si nous ne fréquentons pas l'église, tu vois notre vie de travail, de famille. Seigneur, aide-nous à marcher là où tu nous as placés, dans la vérité, avec sincérité. Aide-nous à être des chrétiens généreux, mais aide-nous aussi à recevoir ta paix dans chaque situation. Merci car dans la Bible, il y a des exemples à éviter. Mais merci pour tant d'exemples de personnes à imiter. Aide-nous à imiter les bons exemples. Et aide-nous, Seigneur, aussi à être des exemples à imiter aussi. Aide-nous, Seigneur, à ne pas avoir un contre-témoignage, mais un bon témoignage auprès des gens que nous fréquentons, que nous côtoyons. Seigneur, merci pour cette journée. Merci pour ce culte ce matin. Aide-nous, Seigneur, à marcher les uns et les autres avec nos yeux fixés sur toi et que nous puissions supplier ta paix en tout temps et de toute manière, car nous te le demandons au nom de Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Amen.